Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est pile poil 9h40 sur France Inter. C'est reparti pour une semaine d'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Grosse audience, gros casting, on les a tous vus, ces fictions du petit écran qui ont fait événement. Souvenirs en famille devant la télé, discussions le lendemain matin à la machine à café. Images aussi de ces grands noms du cinéma français qui, il y a 20 ans, se tenaient le plus loin possible des téléfilms. Jeanne Moreau, Fanny Ardant, Gérard Depardieu, même Deneuve a joué pour elle. Un pied dans la fresque historique, un autre dans le polar. Aujourd'hui, on vous parle de récits populaires inspirés des origines de la télé et des feuilletons littéraires.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour José Dayan.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes habillé tout en rouge, on dirait un lutin du Père Noël. Ou le Père Noël.
C'est ça, oui.
À peu près assorti aux couleurs du studio de France Inter. Votre Comte de Monte Cristo avait réuni jusqu'à 13 millions de téléspectateurs à une époque où il faut quand même se rappeler que les chaînes historiques trônaient encore en majesté. La semaine dernière, le retour de Capitaine Marlowe sur France 3 est regardé par presque 7 millions de personnes. Un score que les prime time de TF1 atteignent de moins en moins. Capitaine Marlowe, c'est Corinne Maziero.
Ouais, ça me gave, là, j'ai envie de dégueuler. Passe, je descends.
L'exercice n'est pas fini. On doit prendre en compte le temps d'évacuation jusqu'à l'hôpital.
Eh bah t'as bien raison, du coup tu vas prendre ma place. Et hop. C'est drôle ici, hein. Je croirais dans un clip de zombie, le Michael Jackson Zombie Dance.
Sauf que là c'est réel. Ouais. Ça fait flipper.
Ouais, bah moi que la Tchétchénie, hein.
Difficile d'imaginer qu'un gamin de 7 ou 8 ans se soit fait tatouer ce dessin, non?
Bon. Moi, ma pote Stéphanie, elle a arrêté de sniffer de la colle à 10 ans. Elle a préféré continuer à l'héros.
T'es plus au courant?
Bah ouais, de toute façon, t'es pas dur à trouver, toi.
Et puis ça, à cause de mon physique de danseur, quoi. Coquine.
T'es marrant, on dirait un belge.
Thank you, well, Ménère.
Anne, toi, Denis!
Elle vous fait rire, votre capitaine Marlowe?
Mais oui, parce qu'elle a beaucoup d'inventivité, quoi. C'est une personnalité très complexe. Moi, je l'ai connue au moment où j'avais commencé à réaliser la collection des livres de Fred Vargas.
Oui.
Où elle jouait le lieutenant Autancourt. Et c'était très différent parce qu'elle était vraiment dans un personnage écrit et qui avait des espèces de normes qui n'étaient pas dépassables.
Mm-hmm.
Et qui n'étaient pas dépassées. Et quand on a décidé avec Corinne de créer ce personnage de Marlowe, c'est vrai que d'un seul coup, elle y a mis beaucoup de son inventivité, de sa personnalité, de son humour.
Donc elle twist les répliques et les punchlines. Elle les twist en permanence.
Oui. Presque en permanence.
Oui. Alors évidemment, donc c'est un flic. Je raconte pour ceux qui auraient pas vu le capitaine Marlowe, flic fantasque à l'œil quand même.
Gendarme.
On peut pas dire flic quand on dit gendarme.
Non.
Le flic c'est la police. À l'œil aiguisé, au flair imbattable, à l'impair froissé, à la trogne sympathique, qui ne manque jamais d'appuyer ses origines populaires. Alors que le capitaine Marlowe a-t-il pris au lieutenant Colombo? Je vous parle pas de l'impair froissé et de la trogne sympathique, ce serait trop facile. Ça c'est plus du clin d'œil. Je dirais plutôt dans sa portée sociale et politique.
Oui, mais surtout aussi dans sa manière de mener ses enquêtes. Voilà, c'est-à-dire finalement en Colombo, on considérait toujours quand il arrivait dans un milieu lambda qu'il était un peu le compte-service, voilà.
Mmh.
Et puis au fur et à mesure, on s'apercevait qu'il était beaucoup plus malin que les autres. C'est un peu le cas de Marlowe, c'est-à-dire qu'elle arrive un peu comme ça, les gens se disent
la vue basse et
ouais,
le
mais
front
qu'est-ce
bas.
Que c'est que ce personnage, cette voiture, cette chapka, etc. Et puis finalement, on se méfie pas tellement d'elle. Et elle a une espèce de finesse d'analyse et surtout d'instinct qui fait qu'évidemment...
Ouais, mais quand même, je reviens sur le côté social et politique de Colombo qu'à mon avis, vous reprenez vraiment à votre compte. C'est-à-dire que Colombo, il arrive rarement dans un milieu lambda. Il arrive en général chez les riches, chez des producteurs de télé puissants, chez des écrivains célèbres, chez des chefs d'entreprise, etc. Il y a un côté lutte de classe un peu chez Colombo qu'on retrouve chez Marlowe.
Oui, en fait, oui et non. Parce que nous, ça n'est pas systématique, si vous voulez, les milieux richissimes. En fait, bon, c'est vrai que, par exemple, un écrivain écrivain célèbre dans l'épisode avec Pierre Arditi. Mmh. Mais là, par exemple, l'épisode avec Nils Arestrup, celui
qui est demain soir.
De demain soir. Et c'est un type un peu ruiné. Vous voyez,
un
il
peu ruiné, mais c'était les propriétaires de la mine. Ouais, enfin, c'était les notables père. Locaux, quand
oui,
même.
Oui, mais vous voyez, un peu en décadence. Donc, non, pas forcément.
Ouais.
Mais la lutte de classe, ça appartient particulièrement à Marlowe Maziéraud, quoi.
À Marlowe Maziéraud. Et en même temps, est-ce que vous qui êtes pétri hein, de culture policière, évidemment, et littéraire, hein, vous adorez le polar. Je rappelle que vous avez été longtemps aussi, l'assistante de Claude Chabrol.
Est-ce que... Pas longtemps.
Pas longtemps ?
Non.
Pourquoi vous êtes crédité au générique de plusieurs films qui se sont fait vite ?
De trois films, voilà, oui, mais c'est pas tellement longtemps. Mais c'était très, très jouissif de travailler avec lui, oui.
Avec Chabrol ?
Oui.
Et de Chabrol, on apprend ça aussi, cette envie de fouiller chaque région de France avec ses classes sociales ?
Oui, sûrement, oui. Mais ça, c'est plus, si j'ose dire, la cape de Chabrol que la mienne.
Que la vôtre.
Oui.
Alors vous qui êtes passionné, je l'ai dit, par le polar, mais aussi par Marguerite Duras, pourquoi pas le fait divers ? Pourquoi pas le réel ?
Ah non, parce que moi je n'aime que la fiction. Voilà, je n'aime que la fiction. Mais ce que vous me dites est drôle, parce que à un moment donné j'avais proposé, puis finalement personne ne l'a accepté, donc tant pis, une série... de films policiers,
ouais.
Qui serait intitulé « Faits divers » et qui serait vraiment partie de vrais faits divers, mais avec comme héros cette fois-ci un fait diviriste, parce que je trouve que le métier de journaliste spécialiste de faits divers, c'est très particulier, c'est entre l'enquête et le journalisme. Et ouais, ça, je trouvais que c'était intéressant.
Donc vous auriez inventé un héros, vous auriez
oui,
eu
évidemment.
Un héros fictif
oui.
pour se balader dans
oui.
des faits
oui.
Inspirés
absolument.
De frères.
Et je trouvais que c'était un personnage très intéressant. Visiblement, personne n'en a voulu.
Oui.
Bah, tant pis.
Hein, vous avez tourné à peu près 120 films.
Oui.
A priori, vous n'êtes pas arrivé au bout. On réécoute, on se balade un petit peu chez Fred Vargas, justement.
J'ai ressenti un truc très déplaisant cet après-midi à un moment donné. Et je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous étions là, vous, devant votre ordinateur, moi assis comme ça. Vous tapiez le rapport à Hernoncourt, et à un moment donné, je vous ai parlé de Rembrandt. Vous vous rappelez ?
Oui, vous m'avez dit que ça manquait de clair-obscur.
Voilà. Alors ce que je voudrais, c'est qu'on appuie sur la touche retour et qu'on revoie la scène tous les deux.
Eh bien, je vous ai dit que les aveux du vieux étaient limpides. Vous m'avez dit trop limpide, ça manque de clair-obscur, il faut tout reprendre au début. J'ai fait la gueule et j'ai bu un coup de blanc.
Eh ben dites donc, Danglars, votre mémoire m'impressionne.
Aussi, oui.
Tout est un tournant. Non, je disais à José Dayan, ça a été un tournant pour vous. José Dayan, invité de l'Instant M. Oui, les Fred Vargas adaptés à la télévision.
Oui, j'adore l'univers de Fred Vargas. Et j'adore Fred Vargas, sa forme d'esprit, son intelligence, sa culture, son originalité, son univers, en fait.
Et il en reste beaucoup à adapter.
Ben, en tout cas, on vient de prendre les droits de Quand sort la recluse.
Ah oui.
Le dernier Vargas qui était absolument extraordinaire, et vraiment on est très très heureux à l'idée de se retrouver tous, c'est-à-dire le groupe Jean-Hugues Anglade, Jacques Spiesser et Corinne Maziéraud dans Autancourt.
Voilà, oui. Et à venir prochainement, bien.
Oui.
Dans la vie de 90% des réalisateurs, le tournage est quelque chose d'exceptionnel, il est l'aboutissement d'un long processus d'écriture et de financement, vous tournez tout le temps, c'est même ce qui fait votre particularité dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Je le dis, hein, vous êtes à quasiment 120 films en 40 ans, c'est ça ? Oui, vous les avez comptés ?
150, je crois.
150 ?
Peut-être,
150.
Oui. Je ne sais pas compter, moi.
Je me suis demandé, moi, si vous ne vous étiez pas trompé de lieu et trompé d'époque, si vous n'étiez pas faite pour être comme ces cinéastes salariés des studios hollywoodiens, à l'âge d'or d'Hollywood, dont les studios bâtissaient tout de l'histoire et du casting, et puis ces cinéastes, ils venaient et ils tournaient, et ils tournaient,
ah non,
et
non,
ils tournaient.
Non, pas du tout. Bien que j'adore cet âge d'or hollywoodien, bien que je sois profondément cinéphile, bien qu'en fait, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les films. Donc, j'ai beaucoup de chance d'en faire. Non, pas du tout, parce que à l'époque de cet âge d'or hollywoodien, les metteurs en scène, et même les plus grands metteurs en scène, étaient entièrement entre les mains des producteurs,
oui.
qui décidaient de tout, c'est-à-dire à la fois des sujets, à la fois du montage, à la fois du casting. Et moi, je ne veux pas qu'on décide de mon casting et de mon montage. Donc, ça aurait été très complexe.
Et en même temps, c'est toute l'histoire d'un cinéma industriel et industrialisé, un cinéma populaire, un cinéma commercial, un cinéma de genre, qui a fini par donner des grands classiques du cinéma.
Non, mais attendez, le problème n'est pas que ça ait donné des grands classiques, non. Ça a même donné des grands films.
Oui.
Mais dans ce cas-là...
Mais qui ont mis du temps à être reconnus comme des classiques.
Oui, bon, mais ça, c'est pas très grave. Casque d'or a été considéré comme un mauvais film, et puis maintenant, bon, vous savez... Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Le film, s'il est bon, il sera reconnu un jour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, j'aurais préféré être producteur à cette période d'or que metteur en scène, puisque en vérité, les décisions artistiques venaient des producteurs et que les metteurs en scène étaient engagés d'une certaine manière, comme on pouvait engager un directeur de la photo ou un cadreur. Mais à l'intérieur de ça, il y a eu quand même des très grands metteurs en scène, et des metteurs en scène avec tellement d'inventivité, de talent et je dirais de ruse,
oui,
qu'ils ont réussi à contourner les producteurs.
À faire passer en contrebande. Voilà. À faire passer en contrebande.
Ça, c'était amusant. Oui.
Ça, c'était très, très amusant. Je le raconte aussi, puisque vous avez grandi à Alger, vous aviez une grand-mère qui tenait des cinémas.
Mais, donc, Napolitane, j'y tiens.
Napolitane, ouais, à Alger, qui tenait des cinémas. Oui. Donc, vous avez été nourrie très, 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 très jeune à cette histoire-là du cinéma. C'était quel cinéma qu'on diffusait dans les salles de votre grand-mère?
Vous savez, j'étais très petite et en vérité, ce qui était particulier, c'est que comme c'était pendant la guerre d'Algérie,
oui,
d'une part, il y avait des couvre-feux et puis il y avait souvent des bombes dans les lieux publics. Donc, mon père ne voulait pas que j'aille au cinéma. D'ailleurs, on avait une maison sur la plage, il ne voulait pas que j'aille nager non plus, donc j'ai appris à nager très tardivement, etc. Bref. Et ma grand-mère laissait son cinéma ouvert après le couvre-feu, donc officiellement fermé, si vous voulez, donc on risquait pas d'y mettre des bombes, et on faisait des projections pour moi toute seule. Donc j'étais dans des salles.
Vous avez vu quoi, vous, par
seule,
exemple, toute seule?
Toute seule, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans.
Et vous vous souvenez de ce que vous avez vu à
ce
moment-là?
Ah oui, je me souviens. Quoi, en plus, j'avais une espèce de truc absolument insensé qui était... assez désagréable pour les gens qui m'accompagnaient, parce que tout de même, j'étais pas seul, j'avais tout le temps quelqu'un avec moi dans la salle, c'est que quand j'aimais un film, je voulais le voir 12 fois ou 14 fois.
Bah oui, comme les enfants qui aiment une histoire.
Voilà, j'étais obsessionnel, donc les gens étaient obligés de le revoir.
Alors, qu'est-ce que vous avez vu 12 fois quand vous étiez petite?
Par exemple, j'ai vu Gilda.
Ouais.
Par exemple, j'ai vu Quand passe les cigognes.
Ouais.
Par exemple, j'ai vu Le Grand Caruso. Voilà certains films dont je me souviens quand j'étais petite, oui.
Gilda, 9 fois à 9 ans.
Oui.
Jeanne Moreau dans Les Rois Maudits.
Beau spectacle. Et qui promet d'être divertissant. Les frères Donnet, roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. Le peuple sera content. Et moi, je retourne chez le roi. Et cette fois, il me recevra. Et ce chien de Nogaret ne m'interdira pas plus longtemps sa porte.
José Dayan, quand on a 9 ans et qu'on voit 9 fois Gilda toute seule dans une salle de cinéma, donc on découvre Rita Hayworth. Est-ce que c'est comme ça? Ça vous émeut d'écouter Jeanne Moreau?
Ça m'émeut de façon incroyable parce que Jeanne est partie il y a presque un mois et demi, oui, le 31 juillet. Que j'ai eu la chance, si j'ose dire, de la voir 3 jours avant qu'elle ne parte, et qu'elle fait partie de ma vie. J'ai rencontré Jeanne au moment de Balzac, c'est-à-dire...
Il y a 20 ans.
Il y a 19 ans.
Oui.
Il y a 19 ans, et ces 19 ans, c'est quelque chose... Comment vous dire, avoir près de soi Jeanne Moreau pendant 19 ans, faire des films avec elle, cette actrice que j'admirais tant et que j'admire toujours autant, évidemment c'est bouleversant, et puis ça m'habite à la fois, et puis c'est un manque incroyable, et puis entendre sa voix, cette voix magnifique, cette façon
magnifique,
si
magnifique,
particulière qu'elle avait dit
les choses,
et se dire voilà, ben j'entendrai plus me parler en tout cas. Ouais, c'est violent.
Est-ce qu'elle fait partie, parce que je vous parlais de Rita Hayworth, est-ce que justement, seule dans une salle de cinéma, c'est là que vous avez, qu'est née votre passion pour les acteurs, ceux que vous avez vus surgir enfant dans le grand écran? Est-ce que la Jeanne Moreau, avant de la rencontrer, pour vous, c'était la Jeanne Moreau d'Allégret, de Becker, d'Ophuls, de Wells, de Demy?
Ni d'Allégret, ni de Becker, mais de Louis Malle, de Truffaut, de Buñuel, d'Orson Welles. C'est-à-dire que Jeanne Moreau, en vérité, quand je suis arrivée à Paris et que après mon bac j'ai décidé de faire l'IDEC, j'étais en permanence à la Cinémathèque, etc. Mm-hmm. Et évidemment, ça correspondait. Moi, je suis arrivée d'Algérie en 62. Ça correspondait. C'était tout à fait cette espèce de d'arrivée dans le cinéma, justement cette modernité, cette différence avec Rita Hayworth et d'autres actrices françaises ou autres, c'est-à-dire cette liberté, à la fois ce charme, cette particularité qu'elle avait, cette façon de dire les choses, sa démarche par exemple pendant des minutes et des minutes dans l'ascenseur pour l'échafaud avec accompagnée par Miles Davis. En fait, Jeanne Moreau pour moi, c'était complètement le cinéma que j'ai découvert vraiment, alors ouais. Je veux dire, pas comme petit enfant
non.
qui allait au cinéma et qui regardait le grand Caruso comme on peut lire un conte de fées, mais là c'était le cinéma comme quelqu'un qui avait décidé d'en faire son métier et sa vie, et qui l'analysait, et qui d'un seul coup, quand je voyais des films avec Jeanne Moreau, je ne pouvais plus l'analyser, parce que j'étais emporté par sa présence. Et ce que j'aime le plus, moi, au cinéma, quand je vois un film, c'est d'un seul coup oublier que je fais des films, c'est-à-dire être un spectateur qui est embarqué. Eh bien, Jeanne Moreau, elle m'a embarqué.
Voilà. Catherine Deneuve, dans Les Liaisons dangereuses, c'est toujours du José Dayan.
Je t'avais demandé un service. Couché avec la petite Volange. Et tu t'es enfui.
Je te le rendrai, ton service. Mais tu me le demandes à un mauvais moment. Je suis occupé.
Qui est-ce ?
Marie Tourvel, la femme d'un diplomate.
Et ça ne peut pas attendre ?
Non, je touche au but.
Tu vieillis, tu marques moins vite.
Je touche au but, te dis-je.
À l'époque, José Dayan, vous montiez ces projets spectaculaires, assez pharaoniques en termes de financement. Vous faites venir, sur le petit écran français, vous faites venir à la télévision une kyrielle de très très grands acteurs qui n'y venaient pas, qui y avaient été la génération précédente du temps de l'ORTF, qui participaient aux dramatiques de l'ORTF, mais qui n'y venaient plus. C'était quasiment infamant de faire de la télé pour cette génération d'acteurs, pour les Fanny Ardant, pour les Jean-Pierre Marielle, que vous avez fait tourner tous pour les Gérard Depardieu.
Oui, enfin, en ce qui concerne Gérard Depardieu, c'est très différent.
C'est
parce
un
que...
cas à part.
Oui, parce que c'est lui qui m'a demandé de faire Monte-Cristo. Lui, il voulait faire Monte-Cristo et il a décidé qu'il voulait le faire avec moi. Donc, en vérité, j'ai pas fait venir Gérard.
Non.
Gérard m'a fait venir. Et parce que Gérard, c'est quelqu'un de... Bon, c'est un acteur magique. Enfin, pour moi, c'est le plus grand acteur. J'entendais l'autre jour une interview de Jean-Louis Trintignant qui disait que Gérard Depardieu, c'était le plus grand acteur vivant. Je suis d'accord avec lui. C'est un acteur de génie. Bon. Donc, à partir du moment où Gérard, avec sa force, avec sa fougue, avec sa personnalité et avec son talent immense, a décidé, lui, de venir faire Monte-Cristo et décidé de le faire avec moi, où on a eu le succès mondial.
Mondial.
Réellement mondial qu'on a eu. Et vous disiez tout à l'heure plus de 13 millions. Et c'est vrai qu'à l'époque, les audiences étaient moins complexes qu'en ce moment. Mais 13 millions à l'époque,
c'était déjà colossal.
Donc, c'est vrai qu'il a ouvert, c'est lui qui a ouvert la voie. Et comme il m'avait choisi, évidemment, tout naturellement, j'étais dans sa voie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui. Et voilà. Aujourd'hui, avec Capitaine Marlowe, vous vous amusez à marier les acteurs. Et vous faites valser les acteurs et qu'ils viennent, pour vous, sur France 3, une comédie policière.
Oui, mais vous savez, moi je vais vous dire, j'aime les acteurs profondément. Et c'est ma came, quoi, voilà. Et quand j'ai commencé à faire Marlowe pour le pilote, justement, j'ai demandé à Gérard Depardieu de venir. Il est venu. Bon, après, mais on vient d'avoir Yolande Moreau qui est extraordinaire actrice.
Demain soir, Nils Arestrup.
Demain, Nils Arestrup, qui est vraiment un très très grand acteur. Là, je viens de terminer un tournage avec justement Jean-Hugues Anglade.
Dans le Médoc.
Oui.
Ça, c'est la bande à Vargas.
Oui, mais la bande à Marlowe aussi. Moi j'aime les acteurs et les actrices et je pense que c'est très important que Corinne Maziero, qui elle-même est une actrice très
et du répondant face à elle,
très douée, elle est face à elle des acteurs qui vraiment ce soit un duel, vous voyez, parce que là j'ai terminé aussi cet été un film alors avec un acteur que j'admire profondément, parce que moi j'aime admirer, qui s'appelle David Suchette, qui est ce grand acteur anglais qui entre autres indépendamment de la Royal Shakespeare Company etc a interprété pendant des années Hercule Poirot. Bon. Et David Suchette, j'ai réussi à l'amener. ici en France avec Marlowe. Et avec ça, Marlowe. Vraiment.
La rencontre entre Capitaine Marlowe et Hercule Poirot. Il n'y a que vous qui pouviez le faire. Merci beaucoup, José Daillon. Mémoire enfouie. C'est le prochain Capitaine Marlowe et c'est demain soir sur France 3.